Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. Bienvenue dans Soul for Soul, votre podcast où on parle de la religion, de la vie, de la spiritualité. Et surtout, voilà, on le fait avec amour et bonne humeur. Donc moi personnellement, ça va et j'espère que vous allez bien, que quel que soit ce que vous faites actuellement dans votre vie, se passe bien. Actuellement, par rapport aux personnes qui sont à l'université, il y a beaucoup de stages, donc j'espère que vos stages se passent bien et que vous avez malgré tout de bonnes vacances. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram du podcast, je vous invite vivement à le faire parce que actuellement je fais des sondages pour qu'on choisisse tous ensemble les sujets qui seront abordés dans les prochains épisodes, donc pour que vous puissiez participer à ces futurs sondages et éventuellement pouvoir choisir l'épisode de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner au compte Instagram du podcast. Donc le sujet du jour, c'est le rapport et les limites à tracer entre les œuvres culturelles et la foi chrétienne. Et par œuvres culturelles, ici, j'entends la musique, les films et les séries. Le point de départ, c'est vraiment le fait qu'on a une liberté chrétienne. Il y a beaucoup de philosophes qui disent qu'en fait, le plus grand problème de l'homme, tout compte fait, c'est sa liberté. Parce que, en tant que chrétien, on sait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et en même temps, il y a un vrai souci de rester saint, parce qu'on doit être saint, on doit atteindre la sainteté, tout comme Jésus lui-même est saint. Et comme on le sait, les œuvres culturelles, donc que ce soit la musique, les films ou les séries, ne sont pas neutres. Ce sont des œuvres qui vont véhiculer des valeurs, des idéologies, des modèles d'identification, et je pense qu'il est légitime pour un chrétien de se demander, est-ce que finalement j'ai des limites à tracer ou pas? Est-ce que quels sont les critères concrets que je dois prendre en compte pour poser des limites ou pas? Et qu'est-ce que je peux faire si je vois que finalement le contenu auquel je fais face n'est pas forcément pour la gloire de Dieu? Je pense que dans une première partie, on va vraiment parler des films, donc films, séries et la foi chrétienne, qui est un danger doux mais un danger qui est réel. Et ensuite, on va parler de la musique dans la Bible. Donc, voilà. Et enfin, je pense qu'en dernier, je vais vous donner vraiment les critères concrets pour poser des limites et que faire. Je pense que je vais faire sous forme de questions, comme ça, ça va faire un peu un petit questionnaire auquel chacun d'entre nous va pouvoir répondre si un jour on se retrouve confronté, voilà. Donc, déjà, on va parler concrètement de ces films et de ces séries qui sont hyper sexualisés, comme on l'en trouve souvent sur Netflix, et du coup de leur impact potentiel sur la foi chrétienne et la vie intérieure. Parce que faut savoir que le constat que moi j'ai fait, et vous me direz si jamais vous avez un constat différent, c'est qu'aujourd'hui Netflix, comme beaucoup de plateformes, diffuse une énorme quantité de contenu où la sexualité est omniprésente, la nudité est banalisée, et les relations sont souvent déconnecté de ce qu'est le véritable amour, déconnecté de l'engagement et du respect. Je ne fais pas une généralité, mais c'est un constat que j'ai fait. Et même dans des séries qui commencent un peu de façon innocente, il va toujours finir par y avoir très souvent des scènes de sexe explicites qui sont finalement presque devenues comme une norme. C'est-à-dire aujourd'hui, pour tomber sur un film sur Netflix qui raconte une petite histoire d'amourette entre deux lycéens, c'est vraiment chaud de pas tomber sur une scène de sexe qui est vraiment explicite. Et en fait, pourquoi c'est un problème? Déjà, c'est assez, je trouve que avant même pour un chrétien, c'est quelque chose qui est assez problématique. Mais là, on va parler pour un chrétien, en quoi est-ce que c'est un problème? Je pense que c'est un problème parce que ça touche directement au corps, au désir et donc à la sainteté. Dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? La sexualité, c'est un don de Dieu et elle devient destructrice, selon moi, quand elle est en fait exposée de manière vulgaire, exposée de manière provocante, quand elle est détachée de l'alliance, donc détachée du mariage, du respect, de la fidélité, et quand elle est mise en scène pour exciter et pas dans un cadre d'amour en fait. Et je trouve que ces films, ils exposent le cœur à une sexualité qui est finalement réduite au plaisir et non à la relation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui peut troubler la pensée, créer des comparaisons malsaines, et ça peut, je sais pas, nourrir la convoitise, la jalousie, ce genre de bêtises là. Et je pense que c'est aussi que ça modifie en fait notre vision de l'amour. Parce que quand finalement on est nourri par des liaisons qui sont instantanées, des coups de des gens qui se rencontrent et genre tout est tout de suite très fort, des adultères qui sont banalisés, des désirs qui sont impulsifs, forts, qui sont valorisés, genre je trouve on commence en fait à perdre le sens de l'amour biblique qui est basé sur la patience, le respect, l'engagement, le pardon, la fidélité. Maintenant on va avoir beaucoup de films avec le cliché de la fille qui est très carré et le garçon qui est très très bad boy, le mec un peu dominant façon, qui a des désirs genre très impulsifs, ou même pour les filles, hein, genre maintenant il n'y a plus vraiment de distinction et tout, des liaisons elles sont à peu près instantanées, genre même dans les films sur l'amour, je sais pas, c'est vraiment une chose, enfin bon bref, on gardera ça peut-être pour un autre épisode, mais genre vous voyez quand les deux protagonistes ils se rencontrent, genre ils ont vraiment un coup de foudre, hein, genre vraiment. Et même si ils ont pas un coup de foudre, genre les choses, elles sont, les sentiments, ils sont genre très forts tout de suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, pendant longtemps, à cause des films et des livres que je regardais, j'étais persuadée que le sentiment amoureux, c'était genre en un claquement de doigts, tu tombes sur une personne et tout est très fort tout de suite et vous vous aimez et ça y est, let's go, on est ensemble pour la vie en fait. Et finalement, je trouve que les films construisent sans qu'on s'en rende compte une vision de l'amour qui est tout sauf divine. Parfois ça construit une vision de l'amour qui est un peu malsaine. Je pense qu'une personne qui est habituée à regarder des films et des séries où les relations sont tout le temps toxiques mais à la fin genre tout se termine bien etc, elle aura genre implicitement sa vision de l'amour va être conditionnée par ça. C'est comme toute proportion gardée quand je vous disais moi et le sentiment amoureux, genre je sais que ma vision de l'amour avant que je m'implique vraiment à fond dans ma relation avec Dieu, était énormément conditionnée par ce que je lisais et ce que je regardais, et j'avais l'impression que du coup c'était comme ça. Et ce qui peut nous sembler choquant au début, comme je sais pas moi, Netflix qui veut toujours nous montrer la nudité de ses acteurs et j'en passe, ça peut devenir normal après quelques épisodes. Genre aujourd'hui, pour Netflix, c'est normal en fait de faire un film où on va voir tous les acteurs nus. Un à un. Genre, c'est pas quelque chose qu'ils remettent en question, tu vois. Et je pense que aussi, doucement, ça fait glisser vers le compromis. Parce que tu vas être là, tu vas regarder, puis tu vas te dire, mais ce n'est qu'un film, c'est qu'une série, je peux zapper les scènes, ça me fait rien. Mais à force de minimiser, je pense que c'est comme si on anesthésie sa conscience, on éteint l'Esprit Saint qui est en nous et on glisse vers la tolérance du péché. Parce que finalement, on s'accorde sur le fait que c'est pas forcément des choses normales et c'est pas forcément des choses qui rentrent dans nos valeurs chrétiennes, mais finalement c'est tellement omniprésent et tu peux tellement pas faire... C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas comment vous expliquer, si on se levait et on décidait qu'on boycottait Netflix à cause de ça... on n'aurait pas du tout le même rapport, et vu que je pense que aucun d'entre nous va se lever du jour au lendemain pour boycotter Netflix juste parce qu'il y a une certaine catégorie de films qui ne reflètent pas les valeurs chrétiennes, on va tout simplement glisser vers la tolérance du péché. Et c'est pas une chute brutale, mais c'est un peu un endormissement progressif. Et je pense que ce qu'on oublie de dire sur les films et les séries, c'est que l'impact il est profond et il est souvent invisible. Des fois tu te rends même pas compte que tu as certaines façons de penser à cause de ce que tu as pris l'habitude de consommer. Et même sans t'en rendre compte, ça va affecter ta pureté du regard. Genre, peut-être on y reviendra quand on abordera la musique. Mais là, si je dois faire une petite parenthèse, je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont une certaine vision de l'homme ou de la femme à cause de justement des musiques qu'ils écoutent, des paroles qu'ils écoutent ou des films qu'ils regardent, ou même des livres qu'ils lisent, genre à l'époque de Wattpad et compagnie, ma foi. Et cela va rendre plus difficile la prière vraie. Parce que si t'es une personne qui est habitué à regarder beaucoup de films et beaucoup de séries, je pense que qui en plus sont beaucoup à caractère sexuel, etc. C'est de la pornographie, hein. Mais c'est juste que genre c'est des séries où il y a beaucoup de scènes sexuelles, beaucoup de scènes osées, etc. Je pense que ton esprit il sera plus dispersé et peut-être que tu auras un sentiment de culpabilité et donc ce qui va créer une distance en fait avec Dieu. Et ça va parfois créer une sorte de dépendance mentale, genre je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des pensées érotiques qui peuvent être récurrentes justement à cause de ce qu'elles regardent, elles peuvent perdre le contrôle et ça peut même abîmer en fait la relation future ou même présente avec un ou une conjoint, conjointe. Et je pense que les attentes elles peuvent être genre irréalistes, on a une vision consumériste de l'autre, genre par exemple moi, enfin là je vais pas forcément le lier directement avec les films et tout, mais je pense qu'il y a un petit lien quand même. Quand je regarde genre des personnes qui sont pas capables en fait d'être en couple sans avoir de rapport sexuel, je trouve ça problématique. Mais bon, ça on y reviendra peut-être sur un autre sujet, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans notre épisode sur les relations amoureuses. Que je vous invite à écouter parce que je l'ai faite avec une de mes potes qui n'est pas du tout chrétienne et du coup c'était hyper intéressant. Donc là par rapport aux films et aux séries, je pense que la question qu'on va se poser c'est quelles limites est-ce qu'on peut poser. Je pense que déjà numéro 1, on doit pas jouer avec le feu. S'il y a des scènes de nudité ou des scènes sexuelles, je pense que c'est pas la peine de faire des compromis. C'est comme quand Paul dit de fuir l'impudicité. Il a pas demandé de combattre l'impudicité, de trier. Non, on fuit. Donc, s'il y a des nudités ou des scènes sexuelles et qu'on est au courant avant de regarder ce film-là, voilà. Et ce n'est pas... Et regarder ce film en connaissance de cause, c'est pas juste une question de liberté, mais c'est un peu de la légèreté avec la sainteté. Je sais pas si tu vois. En numéro 2, je pense qu'on doit être honnête avec nous-mêmes et honnête avec Dieu. Est-ce que j'oserais regarder ce film si Jésus était assis à côté de moi? Moi, honnêtement, c'est une question qui m'aide beaucoup. Parce que tu te rends compte que l'air de rien, tu as une conscience qui t'aide à faire des choix, en fait. Et qu'il y a des choses que tu ne ferais jamais si, genre, Jésus était en chair et en os assis à côté de toi. Et le fait que tu sais que je ne le ferais pas prouve que tu sais que c'est pas bien, en fait. Je sais pas si tu vois. Donc, est-ce que toi, tu oserais regarder ce film-là si Jésus était assis à côté de toi? Et quand je dis est-ce que tu oserais le regarder sans prenant tout en compte, hein, c'est-à-dire on suppose que tu vas pas mettre en pause, tu vas pas accélérer, tu vas pas mettre plus 10 quand il y aura une scène un peu osée qui va apparaître. Non, est-ce que tu peux regarder le film du début jusqu'à la fin avec Jésus et puis être en paix avec toi-même en fait? Ensuite, je pense que le troisième point, c'est de choisir intentionnellement des contenus qui sont purs ou bien des contenus qui sont édifiants. Des contenus qui sont édifiants. C'est-à-dire, il faut chercher des films qui vont construire ton âme, qui vont pas la diviser. Parce que l'esprit, en fait, se nourrit constamment de ce qu'on entend, de ce qu'on regarde, de ce qu'on consomme. Et si tu veux édifier ton esprit, si tu veux grandir dans la foi, tu sais que il y a des films qui vont pas t'aider, en fait. Je sais qu'il y a des films qui vont pas t'édifier. Et je pense qu'à la fin de cet épisode, je vais vous faire une liste de films que vous pouvez regarder qui sont soit plus à caractère religieux, soit plus soit qui ne comportent pas forcément de scènes sexuelles en fait. En tout cas, je vous la mettrai sur Instagram et sera, je vais la rendre disponible pour nous tous. Et ensuite, je pense que le point numéro 4, c'est qu'il faut d'abord remplir son cœur avec Dieu. Si vous êtes une personne qui regardait genre beaucoup de films ou beaucoup de séries pour fuir l'ennui, pour fuir la solitude, pour fuir un manque affectif, alors il faut se rendre compte que le vrai problème, c'est pas forcément Netflix ou la plateforme de diffusion sur laquelle vous regardez, mais c'est un besoin intérieur qui n'est pas comblé. Pensez-y. En tout cas, moi, je pense que il faut y penser. Et ensuite, je pense qu'un verset qui résume bien l'enjeu sur, du coup, sur la question des films et des séries, c'est que on doit veiller sur notre cœur plus que toute autre chose parce que de lui jaillissent en fait les sources de la vie. Donc ça c'est Proverbe 4, verset 23. Maintenant qu'on a fini de parler un peu des films et des séries, je pense qu'on va parler de la musique dans la Bible. Parce que la musique dans la Bible, c'est vraiment un langage spirituel. La musique, elle n'est jamais anodine dans la Bible en fait. Elle est présentée à tous les niveaux de l'être humain et elle peut soit élever l'être humain vers Dieu, soit séduire l'être humain loin de lui. Je pense qu'on va parler de... On va essayer de faire en différents points. Donc on va parler de la musique pour le corps, la musique pour l'âme, la musique pour l'esprit. Et ensuite, je pense qu'on va parler de Lucifer. Donc, on va commencer par le corps. Donc, il faut savoir que le corps réagit à la musique. On danse, on frappe des mains, on chante, on joue d'un instrument. On sait que David dansait devant l'arche, donc en 2 Samuel chapitre 6, verset 14, en signe de joie et en signe de liberté et de reconnaissance devant Dieu. Ensuite, dans le culte hébreu, donc qui sont un peu les ancêtres des chrétiens, voilà. Dans les cultes hébreux juifs, il y avait des tambourins, des harpes, des cymbales, des flûtes, etc. David lui-même jouait de la harpe, donc ça au psaume 150. Et en fait, on se rend compte que la musique fait partie du culte corporel à Dieu. C'est-à-dire, elle mobilise notre énergie, elle va mobiliser notre souffle, elle va mobiliser notre présence. Et on se rend compte que ce corps peut être aussi... rythmé, excité ou entraîné par des rythmes qui vont stimuler la chair et pas forcément rendre gloire à Dieu. Ensuite, si on doit parler de l'âme, c'est que c'est plutôt sur la musique et les émotions. Dans le sens où les psaumes sont vraiment un exemple parfait de musique qui est liée à l'émotion humaine. Comme je vous ai expliqué dans un épisode que j'ai consacré aux psaumes, les psaumes ils sont faits pour être chantés. Donc c'est-à-dire que c'est des paroles de chansons en fait. Et on se rend compte dans les psaumes qui ont pratiquement tous été écrits par David qu'ils traversent toutes sortes d'émotions. Donc la joie, la tristesse, le doute, l'espérance. Et parallèlement, David va jouer de la harpe pour apaiser Saül quand il sera tourmenté par un esprit mauvais. Donc en 1 Samuel 16, verset 23. Donc cela montre que la musique a un pouvoir réel sur les états d'âme, même spirituel. Genre l'âme, c'est vraiment une zone émotionnelle et psychologique en fait. Donc la musique peut faire y naître des élans de paix, d'amour, de tristesse, de révolte selon ce qu'on écoute. Moi je sais que quand j'écoute des chansons genre de R&B qui en général parlent des déceptions amoureuses d'hommes ou de femmes par rapport à d'autres personnes, etc. Je sais que c'est des chansons qui ont quand même tendance à me rendre triste. Par rapport à une chanson Naija, je sais pas. Et je sais que quand je suis pendant l'hiver et que j'écoute par exemple du Brent Faiyaz, j'aime bien Brent Faiyaz, mais si je l'écoute pendant l'hiver, oh mais ma foi, qu'est-ce que je serais triste! Genre vraiment, la chanson, elle va vraiment me mettre dans un mood vraiment triste. Ça va vraiment pas me faire le même effet que si, je sais pas, moi j'écoute Soweto en plein hiver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, concernant l'esprit, alors Jésus dit que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. En Jean 4, verset 24. Et l'adoration dans la Bible, elle est souvent musicale. Elle n'est pas forcément avec des instruments, mais c'est un cœur qui s'élève vers Dieu, en fait. Et même dans l'Apocalypse, les êtres célestes, donc les anges et compagnie, ils vont chanter autour du trône. Donc Apocalypse 5, verset 9 à 14. Donc la musique, elle a un pouvoir spirituel qui est profond. C'est un canal direct vers la présence de Dieu ou à l'inverse, vers d'autres réalités spirituelles. Enfin, on a... du coup, je vous ai dit qu'on allait parler de Lucifer. Donc je pense que si on parle de Lucifer et la musique, ce que dit ou laisse entendre la Bible, c'est que le lien entre Lucifer et la musique vient d'un passage qui est souvent interprété comme décrivant Satan lors de avant sa chute. Donc dans Ézéchiel 28, les versets 13 à 14, Ézéchiel écrit en parlant de Lucifer, « Tu étais un chérubin protecteur, tu étais couvert de pierres précieuses au son de tes tambourins et de tes flûtes, préparé pour toi le jour où tu fus créé. » Donc ce passage, il semble dire que Lucifer avait une structure musicale qui était intégrée à sa personne. Il aurait été créé pour adorer Dieu par la musique avant de tomber à cause de l'orgueil. Donc, nous, en tant que chrétiens, l'interprétation courante qu'on fait, c'est que Lucifer, c'est le chef des louanges célestes. C'est le porteur de lumière, c'est le porteur de beauté, d'harmonie. Et sa chute n'a pas, en lui laissant devenir Satan, n'a pas supprimé sa puissance musicale, mais l'a détournée pour séduire au lieu d'élever. Et donc désormais, Satan utilise en fait la musique pour pervertir les âmes, pour pervertir les âmes, pour glorifier la chair, et finalement détourner l'adoration de Dieu, mais mettre l'adoration vers d'autres esprits, d'autres divinités, vers d'autres choses qui sont pas forcément notre vrai combat, tu vois. Et je pense que le pouvoir de la musique sur l'homme n'est donc pas à négliger. Les côtés positifs, c'est que ça, on va dire, ça guérit, ça apaise, ça libère, comme avec David et Saül. Elle unit les croyants dans l'adoration. Elle active la foi, comme Paul et Silas quand ils chantaient quand ils étaient en prison, dans Actes chapitre 16, verset 25. Et ça peut même renforcer la mémoire, parce que finalement, le chant, c'est une théologie mémorisée d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a des psaumes qu'on connaît par cœur à force de les chanter à la messe, par exemple. Là, je parle de la messe en tant que catholique. Mais en même temps, les côtés négatifs, c'est que ça va influencer l'humeur. Comme je vous ai expliqué avec Brian Fayaz, ça va influencer l'humeur, la pensée, le comportement, même inconsciemment. Ça peut créer une atmosphère qui est une atmosphère spirituelle qui est toxique, en fait. C'est-à-dire la colère, la luxure, l'orgueil, etc. Et comme, je sais pas qui a dit ça, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit un jour, on devient ce qu'on écoute. Et c'est trop réel. Et quand tu te rends compte qu'on devient ce qu'on écoute, tu te rends compte que en tant que chrétien, tu peux pas écouter n'importe quoi, en fait. Et donc, l'influence de la musique dans ce monde et sur la foi, je pense que dans le monde, c'est que l'industrie musicale elle forme vraiment les mentalités. Genre avec la libération sexuelle, vraiment en chantant les gens parler du sexe dans les chansons comme si c'est rien, le rejet des normes, le matérialisme. Genre vraiment, il y a certains artistes qui même... en grand public vont intégrer des rituels, des symboles occultes, des paroles qui sont volontairement blasphématoires ou des paroles qui sont genre problématiques, mais bon, voilà, ou même antichrétiennes, mais bon, ça, voilà. Et même dans la foi, genre, il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui vont vivre une sorte de conflit intérieur, genre qui vont adorer Dieu le dimanche et écouter du rap à caractère sexuel ou de la pop, je sais pas moi, érotisée dans la semaine, et ça va affaiblir en fait leur vie spirituelle parce que ça va créer une confusion émotionnelle ou même une... enfin voilà. Et il y a certains qui vont vivre une sorte de dépendance musicale qui devient limite une sorte d'idole, en fait, parce que c'est des personnes qui peuvent pas s'endormir sans écouter de musique, des personnes qui ne supportent pas le silence. Voilà, et je pense que la conclusion sur ce point, c'est qu'on doit vraiment revenir à une musique qui sanctifie, en fait. Je pense que la bonne musique, elle se limite pas seulement à être non vulgaire. Elle est édifiante, elle est belle, elle est porteuse de vérité, et si possible, elle est accordée à la voix de Dieu en toi. Et dans Colossiens chapitre 3 verset 16, il est écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, là, on a parlé. On a vu qu'il y a des problèmes avec la musique. On a vu qu'il peut y avoir des problèmes avec, avec les films et avec les séries. Donc là, on va parler des critères concrets pour poser des limites, en fait. Donc, voici les questions simples qu'on peut tous se poser face à un contenu. Donc, est-ce que ce contenu, il nourrit ma foi ou il me détourne de ma foi? Est-ce que je pourrais regarder ou écouter ça si Jésus était à côté de moi? Est-ce que je me sens plus inspirée à aimer Dieu et mon prochain après? Est-ce que je pourrais en parler avec Dieu? Et je pense que vis-à-vis des réponses qu'on pourrait avoir ou des questions qu'on pourrait se poser après celle-ci, on doit pouvoir faire, je pense, trois choses. La première chose, c'est un peu créer des alternatives. Souvent, en fait, on a juste besoin d'avoir... On aime écouter des choses, en fait. On n'accorde pas une grande importance à ce qu'on écoute vraiment. On banalise un peu le truc. Donc ce serait un peu de créer des alternatives. Si tu sais que tu es une personne qui a vraiment besoin de musique, mais qui n'écoute que des musiques, je sais pas moi, qui parlent de... je sais pas... Enfin, qui valorise pas du tout, en tout cas, tu pourrais grave te créer des alternatives. C'est-à-dire, tu vas écouter de la musique chrétienne, tu vas écouter des psaumes qui sont chantés, qui sont rappés, etc. Parce que maintenant, en plus, il y a beaucoup de musique chrétienne moderne, et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Genre, il y a du rap, il y en a plutôt pop, il y en a très adoration, il y en a qui est plus R&B. La dernière fois, on m'a dit qu'il y avait des musiques chrétiennes, style K-pop. Genre, vraiment, actuellement, si tu veux écouter des musiques chrétiennes, tu en as pour tous les goûts. Après, je pense qu'on peut aussi essayer de genre sanctifier son regard. Donc, essayer de regarder les films et les séries avec beaucoup plus de recul, avec un esprit critique. Et parfois même en tirer des enseignements pour témoigner. Ne pas juste regarder parce que tout le monde regarde. On est des chrétiens, on est des disciples de Jésus. On n'est pas tout le monde, on n'est pas n'importe qui, tu vois. Et après, je pense qu'il faut aussi... être intentionnel, c'est-à-dire si tu le peux, essaye d'alterner le plus possible des moments culturels avec des moments spirituels pour garder l'équilibre. Genre si à chaque fois que tu t'ennuies, t'as ce don de facilité, c'est un peu d'aller regarder le premier film que Netflix te propose parce que tu as l'impression de ne rien avoir à faire, lis ta Bible, prends un petit temps de louange, de méditation, regarde un petit... écoute un podcast pendant que tu fais ta cuisine ou que tu fais un ménage, voilà. Regarde une vidéo sur YouTube qui aborde un sujet genre sur la chrétienté, il y en a plein. Genre vraiment, voilà, essayez de s'occuper sainement. Donc moi, c'est vraiment des conseils que je pourrais vous donner. Si vous avez des partages à faire ou d'autres commentaires à ajouter, parce que je pense qu'il y a quand même peut-être des aspects que j'ai pas... abordé. En tout cas, moi, en gros, je condamne pas les films, je condamne pas les séries, je condamne pas la musique, mais je pense juste que en tant que chrétien, on a des choix à faire pour notre propre sanctification et notre propre élévation spirituelle, en fait. Donc voilà, ce fut moi. On peut se retrouver tranquillement sur le compte Instagram du podcast. Je réponds à tous les messages. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est @soul4s0ul soul for soul. Et que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine.